Alors, on se prépare à fêter dans quelques jours la naissance du Seigneur. Ça va être un beau moment, une année bizarre, je le sais, mais Jésus n'est pas moins présent cette année, même si nous, on n'a pas la même liberté de se réunir comme on voudrait le faire. Il est encore plus présent, je vous dirais. Cette année, j'ai prié comme ça faisait longtemps que je n'avais pas prié et je me sens près de mon Sauveur plus que jamais. Alors, on va souligner la naissance du Seigneur. Puis on arrive dans l'Évangile de Jean, dans un passage qui est très, très à propos. Jésus dit au verset 12, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus vient pour éclairer les hommes, pour nous amener hors de nos ténèbres, dans la lumière, parce qu'il est lui-même la lumière. Et il nous dit que lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, cette personne-là possède la lumière de la vie. En lui-même. C'est ce qu'il nous dit, par son esprit, vient en nous. Et dans le passage qu'on va regarder ce matin, dans ce passage-là, il y a vraiment un conflit qui est en train de sortir entre les experts de la Bible de l'époque, les docteurs de la loi qu'on les appelle, ou les scribes, les pharisiens, et Jésus. Et ils essaient un peu de comprendre, mais qui est ce personnage-là? Étrange, ce personnage qui nous explique la Bible comme personne ne l'a jamais expliqué, qui fait des miracles, qui même incarne une vision de la foi ou de la religion où il accueille les pécheurs, il va vers les gens de mauvaise vie, il les aime, il les intéresse à Dieu littéralement. Puis ils sont là, puis ils disent « Mais t'es qui, toi? » Puis on sait qu'ils veulent le piéger, mais en même temps, ils vont poser cette question-là. Et cette question-là, en fin de compte, c'est la question la plus importante que tous les êtres humains sur la Terre peuvent se poser. Qui est Jésus? La question qui nous occupe naturellement, nous, comme êtres humains, c'est « Qui suis-je? » Hein, quand on rentre dans l'adolescence, les grosses questions viennent, puis « OK, je ne fais pas juste partie d'une unité familiale, je suis un individu, je suis qui là-dedans, qu'est-ce que je veux devenir? » Tout ça, ça devient comme une question un peu obsédante qu'on traîne pendant une bonne partie de notre vie. Là, on arrive à 50, 60 ans, on dit « Ah, je pense que j'ai trouvé qui je suis. » Donc, comment ça se calmer? Mais ça demeure une question secondaire. Parce que la vraie question importante, c'est qui est Jésus? Si Jésus est ce qu'il prétend être dans ce passage-là, le découvrir, le connaître est encore plus important que de se découvrir soi-même et se connaître. Et donc, Jésus va répondre à leurs questions. L'Évangile de Jean, plus que tout autre évangile, nous révèle la grandeur de Jésus. C'est vraiment un évangile spécial pour prendre la mesure de qui est Jésus. Et ça demeure la question la plus importante que tu pourrais te poser, découvrir qui est ce Jésus-là. On va aller ensemble dans la prière, puis on va écouter la lecture des Saintes Écritures, puis on va chercher les réponses, à savoir qui est Jésus-Christ. Seigneur Jésus, on vient à tes pieds ce matin, humblement. On sait que tu es présent parmi nous par ton Esprit Saint. On sait que tu veux nous parler à travers ta parole. On se prépare à fêter. Les chrétiens se sont donné une fête en ton honneur, où on célèbre ta naissance le 25 décembre. C'est une belle initiative, Seigneur, de l'Église à travers les anges. Quel merveilleux Sauveur tu es. Quel merveilleux Seigneur tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Et je te prie de venir nous parler ce matin à travers ta parole, mais que ton Esprit qui habite en nous vienne vraiment éclairer les yeux de notre cœur, qu'on puisse saisir ce passage, peut-être comme on ne l'a jamais compris, et que ces vérités-là viennent nous transformer à ton image de plus en plus. Et si quelques personnes écoutent ce message, et ne te connaissent pas vraiment. Ils te trouvent intéressant, ils te trouvent challengeant, mais ne réalisent pas vraiment qui tu es. On te prie, Seigneur, de venir te révéler à eux ce matin. Que ce Noël de 2020 soit le premier pour eux où ils célébreront vraiment la venue du Sauveur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture des Saintes Écritures.
Le passage biblique de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean, le chapitre 8, avec quelques extraits. Donc, l'Évangile de Jean, chapitre 8. Le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » « en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. 50 à 59. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple.
Merci, Julie. Qui es-tu? C'est la question la plus importante qu'on peut se poser. Qui est Jésus, vraiment? Et lorsqu'on pense l'avoir vraiment saisi, on le découvre de plus en plus, même lorsqu'on est chrétien. Au verset 25, ils sont en train de se prendre vraiment avec lui. Ils cherchent une occasion de le faire condamner. Et ils vont lui dire, « Oui, mais qui es-tu? » Puis Jésus leur dit, « Ce que je vous dis depuis le commencement. » Un peu plus loin, ils vont lui dire au verset 19, « Où est ton père? » Quand tu veux savoir qui est quelqu'un, tu veux savoir c'est qui son père. D'où il vient, c'est quoi ses origines? « Où est ton père? » Jésus leur répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. » Parce que Jésus vient du ciel, il ne vient pas de la terre. Son père est dans le ciel. Au verset 53, faisant référence à leurs origines, à leurs ancêtres, ils vont dire, « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? » La réponse de Jésus, ça va être « Oui. » Oui, je suis infiniment plus grand que votre père Abraham. On va voir ça ensemble ce matin. Je résumerai un peu les questions auxquelles on va chercher à répondre dans le passage comme ceci. Qu'est-ce que Jésus t'offre? Qu'est-ce que Jésus nous offre? Et pour savoir ce qu'il nous offre, il faut qu'on sache qui il est. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus t'offre? Qui est Jésus? Qui est son Père? Puis à travers tout le passage, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Alors que ses adversaires, je vais les appeler comme ça, les experts de la Bible, les experts religieux sont en train de contester Jésus, puis ils lui lancent en quelque sorte ces questions-là par la tête. Lui, il leur retourne constamment la chose en disant « Oui, mais vous, qui êtes-vous? » Puis, qui est votre père? Puis, il y a une espèce de tension où Jésus va nous amener à se poser la question à nous-mêmes. J'ai besoin de découvrir qui est Jésus, mais moi, qui je suis par rapport à Jésus? Et puis, j'ai besoin de savoir d'où vient Jésus, c'est qui son père, mais qui est mon père à moi? Jésus est en train de nous remettre en question, nous, pour savoir si on est de Dieu ou si on est du diable même. Très troublant comme passage, mais très, très, très éclairant. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. À celui qui croit que Jésus est Dieu le Fils, Jésus donne la liberté du péché et te conduit dans la lumière. À celui qui croit que Jésus est Dieu le Fils, Jésus donne la liberté et le conduit dans la lumière. Qu'est-ce que Jésus nous offre? Qu'est-ce qu'il t'offre? Bien, il nous offre premièrement de sortir des ténèbres pour marcher dans la lumière. Verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voyez-vous, ces gens-là avec qui il est en train de discuter, avec qui il est en train de débattre, bien, c'est des experts de la Bible. Dans leur esprit, à eux, ils possèdent la lumière. Ils sont là pour éclairer le peuple. C'est des gens qui enseignent la Bible. Ils enseignent la Bible au peuple. Ils ne sont pas dans les ténèbres. Pour eux, ils connaissent la vérité, ils expliquent les Écritures. Ils vont en fait vers les ignorants dans le peuple, ceux qui sont dans les ténèbres, puis ils leur apportent la lumière. Puis Jésus leur dit non, 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 non. Vous êtes dans les ténèbres. Vous pensez posséder la lumière. Mais si vous étiez dans la lumière, vous reconnaîtriez qui je suis. Vous verriez bien que je suis l'accomplissement de toutes les prophéties de ce livre que vous étudiez. Vous étudiez l'Ancien Testament, vous êtes des experts de l'Ancien Testament. Le Messie se présente devant vous, vous n'êtes pas capable de le reconnaître. Vous êtes incapable de le reconnaître, vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans les ténèbres. Comprenez qu'ils vont se prendre avec lui, hein? Parce que Jésus est en train de parler des ténèbres de leur cœur, de leur péché, qui fait qu'ils ont beau avoir la Bible dans les mains, ça ne leur donne pas la vérité. Parce que leur cœur est l'endroit où se trouvent les ténèbres. C'est le péché. Fait qu'une des questions que ce passage-là nous pose en partant, c'est « Est-ce que tu connais les ténèbres de ton cœur? Est-ce que tu connais les péchés de ton cœur? » Un tout petit peu plus loin, Jésus va dire qu'il nous offre la vraie liberté. Au verset 31-32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Qu'est-ce que Jésus nous offre? C'est de nous affranchir. Ça veut dire de nous libérer. Nous libérer de quoi? Des ténèbres où nous sommes. Des péchés où nous sommes. Verset 34-36, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours en parlant de lui. Si donc le Fils vous libère, vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous libère ou vous affranchit, vous serez réellement libre. » Voyez-vous, l'idée est en train de nous offrir de nous faire sortir des ténèbres pour nous conduire dans la lumière, nous faire sortir de l'esclavage du péché pour nous libérer du péché. Mais la première question que ce passage-là nous pose, c'est est-ce qu'on est conscient de nos propres ténèbres? Est-ce qu'on est conscient de nos propres péchés? Ces experts-là de la Bible, ces gens qui prétendaient conduire le peuple dans la lumière, n'étaient pas du tout conscients de leurs péchés. Ils étaient convaincus qu'ils avaient la vérité. Ils étaient des experts de la Bible. Eux autres, ils marchaient selon Dieu. C'était des religieux, plus religieux que religieux. C'était des experts religieux. Ils n'étaient pas dans les ténèbres, selon eux. Puis pourtant, Dieu leur présente le Messie des Juifs qui avait été annoncé dans tout l'Ancien Testament. Puis ils décident de se prendre avec lui, d'entrer en conflit avec lui. Puis finalement, ils vont le livrer pour être crucifiés. Si tu es dans la lumière puis on te présente le Messie, paf, tu dis « aïe aïe ». On sort la fanfare, on célèbre le Messie. Mais voyez-vous, les ténèbres du péché, c'est quelque chose qui nous rend aveugles. Ça nous trompe nous-mêmes. Ça sème une confusion en nous. On devient confus. Tu as beau mettre la vérité devant la personne lit ça, puis elle lit autre chose parce qu'elle ne voit pas son propre cœur. Mais leur lecture de la Bible était teintée par les ténèbres de leur cœur, qui faisait qu'ils n'étaient même pas capables de voir la vérité. Est-ce que toi, tu connais les ténèbres de ton âme, de ton cœur? Jésus dit, au verset 34-36, il dit, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Est-ce que tu connais tes esclavages? Même comme chrétien, Dieu nous a libérés du péché, mais hein, l'apôtre Paul va appeler ça le vieil homme ou la chair. Tu sais, des fois, il y a comme un écho, puis tout va bien dans ta journée, puis à un moment donné, il y a une pensée, paf, qui apparaît. Là, tu dis, mais ça sort de où, cette affaire-là? C'est comme pas là, c'est moi avant, ça, c'est plus là, tu sais, ou je sais pas, il se passe une situation, boum, une parole qui sort. J'ai déjà dit, je dis ça moins souvent à l'Église, ça ne donne pas simplement, mais moi, je suis un colérique. Puis, confession, c'est déjà réglé avec le Seigneur. Donc, je n'ai pas besoin de votre grâce, mais j'ai plutôt besoin de vous exposer à quel point le vieil homme est encore là des fois. La semaine dernière, situation tendue, tout ça, je stationne ma voiture, bang, je donne un coup de poing sur le volant. Disqualifié, tu n'es plus pasteur. Mais sérieusement, puis là, je suis là, mais ça vient d'où cette affaire-là? Le vieil homme est encore crucifié, faire mourir les œuvres de la chair. Est-ce que tu connais les inclinaisons charnelles de ton cœur? Est-ce que tu connais là où le vieil homme parle encore parfois? Si tu n'es pas chrétien, est-ce que tu es prêt à voir les ténèbres de ton cœur? Est-ce que tu es prêt à être honnête avec toi-même? Où est-ce que tu penses que tu es dans la lumière? On a vécu l'époque des Lumières. Hein, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. L'être humain est éclairé maintenant par l'époque des Lumières. Maintenant, on est des êtres scientifiques. On sait la vérité. On ne se trompe plus nous-mêmes. On connaît tout. Je pense pas, moi. Je pense pas. Je regarde comment se passent les choses. Je pense pas. Est-ce que tu es prêt à ce que Jésus t'amène ailleurs, te fasse sortir des ténèbres pour te conduire dans la lumière? Et je pense que Noël, c'est l'occasion même pour les chrétiens aussi de s'examiner et de dire, « Seigneur, je veux que tu règnes partout dans ma vie. Je veux que tu sois là dans tous les domaines de ma vie. » Ce matin, je priais et je dis, « Seigneur, je ne sais pas c'est quoi les coins qui manquent encore à être éclairés. Viens partout. Je veux que ta vie soit en moi partout, Seigneur. » Pour ceux qui sont familiers avec le texte biblique ou avec les Écritures, je veux juste pointer vers une perle qu'il y a dans le passage, puis je ne vais pas le développer maintenant, on va probablement pouvoir le développer tranquillement dans Jean. Mais Jésus dit quelque chose de spécial au verset 17, il est en train d'argumenter avec les experts de la Bible, puis il leur dit, « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » C'est intéressant, juste « votre loi ». Jésus est un juif né d'une femme juive. Jésus n'est pas contre la loi. Quand il parle de la loi ici, il ne parle pas de la loi légale comme au Québec. Là. Il parle de la loi de l'Ancien Testament. Il parle des Saintes Écritures. Il parle de la loi de Moïse. Puis Jésus dit, il est écrit dans votre loi comme si ce n'était pas sa loi. Est-ce que Jésus est contre l'Ancien Testament? Il n'est pas contre l'Ancien Testament. Mais une des choses qu'on découvre avec Jésus dans l'Évangile de Jean, dans les autres évangiles, avec l'apôtre Paul par la suite, on découvre que lorsque Jésus vient, à quelque part, il vient changer profondément notre rapport à la loi. L'apôtre Paul va appeler ça la loi de Christ. La loi dans l'Ancien Testament, même avec ces experts-là de la loi, à quelque part, servait fondamentalement à montrer qu'il était pécheur puis qu'il n'était pas capable de faire le bien. C'est comme si c'est ça l'effet de la loi. La loi a pour effet d'exposer le fait qu'ils ne sont pas capables de faire le bien. Puis lorsque Christ vient, il va nous donner son Esprit Saint, et par son Esprit Saint, nous allons vivre. Il va dire, il y a des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de ton sein. Et donc, on va vivre la loi de Christ. C'est vraiment intéressant. Je vous donne juste une piste à méditer, à contempler, à repasser. C'est quoi notre rapport à nous avec la loi? Si Jésus dit, dans votre loi, alors que nous, maintenant, on est habité de la loi de Christ. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est juste une piste, puis on va y revenir tranquillement à travers Jean. Maintenant, pour recevoir cette vie-là, cette liberté que Jésus nous offre, il faut que tu connaisses Jésus. Il faut que tu le connaisses personnellement, intimement. Il faut que tu découvres qui il est. Il faut que tu crois qui il est. Ces experts de la Bible ne peuvent pas recevoir la liberté que Jésus leur offre parce qu'il refuse qui il est. Il rejette qui il est. C'est pour ça que je dis que c'est la question la plus importante à laquelle tu peux être appelé à répondre dans ta vie. Que tu sois n'importe qui, chrétien, non chrétien, la question la plus importante à laquelle tu vas avoir à répondre de ton vivant, c'est qui est Jésus-Christ et qui est-il pour toi? Pas pour tes parents, pas pour tes voisins, pas pour les chrétiens, pour toi. Bien, il est la lumière. Verset 12, Jésus est la véritable lumière. Et ce thème-là est à travers tout l'Évangile de Jean. Ça commence au verset 9 du chapitre 1. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est la lumière qui nous conduit dans la vérité. C'est ça qu'il est en train de développer dans Jean. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai besoin d'être éclairé, une des premières choses que je devrais faire, c'est me tourner vers Jésus. Je devrais me tourner vers Jésus quand j'ai besoin d'être éclairé. C'est lui la lumière, dans toutes les circonstances. N'importe où, pense à un domaine dans ta vie où actuellement, tu as besoin d'être éclairé. Je vais donner un exemple concret, d'accord? Tu as 25 ans, tu es célibataire, tu aspires à te marier. Tu devrais te tourner vers Jésus. clarifier dans ton cœur qui est Jésus, qui est Jésus pour toi. Tu dis, j'ai 25 ans, j'aimerais me marier, je prie, je m'interroge à savoir, est-ce que je dois poursuivre le mariage, je pense que je suis appelé à ça, je veux me trouver un époux, est-ce que je vais trouver un époux, une épouse? La première chose que tu devrais faire, c'est te tourner vers Jésus et clarifier dans ton cœur qui est Jésus pour toi. Pourquoi? Mais parce que souvent, quand on pense au mariage, c'est parce qu'on veut combler une solitude. On veut combler quelque chose. C'est possible d'être célibataire et de souffrir de solitude. Maintenant, il y a quelques personnes ici mariées depuis quelques années qui pourraient vous témoigner aussi qu'il est possible d'être marié et souffrir de solitude. C'est possible d'être marié depuis très longtemps et de souffrir d'une profonde solitude. Parce que ce n'est pas mon époux, mon épouse, qui est appelé à combler cette solitude-là fondamentale. C'est Christ qui est appelé à le faire. Et donc, je dois aller clarifier premièrement qui est Christ pour moi, pour trouver les bonnes raisons pour me marier. Parce qu'une fois que j'ai clarifié ça, puis je dis, Jésus, tu es tout pour moi. Vous savez ce qu'on dit, hein, quand on tombe en amour, on va dire, je l'ai dans la peau. Mais moi, j'ai Jésus dans la peau. Littéralement, son esprit habite en moi. C'est lui qui comble toutes mes solitudes. C'est pas que c'est pas agréable d'être marié. Je suis marié depuis 28 ans avec Esther, une épouse extraordinaire. On est heureux ensemble. Des fois, je suis avec Esther, puis je me sens seul. Parce que c'est Christ qui peut combler ces solitudes-là que tu peux vivre, même dans une relation de mariage qui est heureuse. Il y a des solitudes que mon épouse ne peut pas combler parce qu'elle n'est pas Christ. Alors, je me tourne vers Jésus. C'est la première chose que je veux faire. Je veux clarifier qui est Jésus pour moi. Une fois que ça c'est clair, je vais comprendre à quoi sert le mariage. Une fois que ça c'est clair, je vais réaliser que le mariage, ça ne sert pas à combler un vide. Le mariage, ça sert à exprimer mon amour pour Christ en devenant le serviteur de quelqu'un d'autre. C'est ça le mariage. Paul dit aux hommes, hein, « Aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église en se livrant lui-même pour elle. » C'est à ça que ça sert le mariage. Le mariage, c'est juste un appel à rendre très, très, très concret mon amour pour Christ, son amour pour moi à travers une relation humaine. C'est ça le mariage. Le mariage, ça sert à ce que je devienne le serviteur de mon épouse. Je veux avoir des enfants, pas pour me réaliser dans mes enfants, pour conduire ces petites bêtes-là à suivre le Seigneur. C'est ça que je veux faire. Si tu ne connais pas Christ, si tu ne sais pas qui est Christ pour toi, ce n'est pas ça que tu t'en vas faire dans le mariage. Je veux dire, accrocher quelqu'un sur la rue, là, faites un petit sondage spontané au centre d'achat, puis dites, est-ce que vous êtes en couple? Oui, vous êtes en couple. Vous êtes en couple parce que vous vouliez servir quelqu'un d'autre, c'est ça? Je ne pense pas que ça va marcher. Non, je veux dire, à partir du moment où l'autre personne ne me sert plus assez, hein, ça ne me comble plus, bien, je vais chercher un autre partenaire. Donc, dans toutes les questions qu'on se pose, j'ai donné un exemple concret dans toutes les questions que je me pose. Quand j'ai ce sentiment d'avoir besoin de trouver des réponses, à quelque part, il y a des ténèbres, j'ai besoin de lumière, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers Christ. J'ai besoin de savoir qui est Christ pour moi. Qui est Jésus-Christ? Et là, il va me conduire dans la vérité, dans la lumière. Et dans le passage, ce qu'il veut révéler fondamentalement, c'est qu'il est le sauveur des hommes. Qui est Jésus-Christ? La réponse, c'est qu'il est la lumière du monde, qu'il est le sauveur des hommes qui est élevé sur la croix. Regardez le verset 28. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez ce que je suis et que je ne fais pas, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Ils ne reconnaîtront pas qui il est. Ils vont livrer aux Romains. Ils vont exiger qu'il soit crucifié. Il va être crucifié. Et alors, ceux qui vont croire en lui vont enfin comprendre qui il est. Il est le sauveur des hommes. C'est ça qu'on va célébrer dans une semaine. Il est le sauveur des hommes qui est venu donner sa vie en mourant sur la croix. Écoutez, ces gens-là cherchent un Messie. Jamais ils auraient pu imaginer que ce Messie-là devait être pendu au bois pour leur péché. Ils sont tellement dans les ténèbres de leur cœur qu'ils ne pensent pas qu'ils ont besoin d'un Messie qui va les sauver dans ce sens-là. Si vous aviez demandé à ces experts-là de la Bible, « Ouais, ça a l'air que votre Bible enseigne qu'il va avoir un Messie qui va venir vous sauver. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Ah, écoute, je pense qu'il va lever une armée, ça va être incroyable, il va nous libérer des Romains, on va devenir une nation, on va être puissant, on va être fort, puis on va être libre. » Vous n'allez pas être libre. Vous allez être esclave de vos péchés. C'est pas des Romains que Jésus a besoin de vous sauver. C'est de vous-même. C'est de vos péchés, de vos ténèbres à vous qui a besoin de vous sauver. Mais pour eux, ils sont dans la lumière. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés des ténèbres. Ils ne voient pas leurs ténèbres. Eux, c'est les experts de la Bible. Ils enseignent la vérité à ceux qui ne connaissent pas la vérité. Ils éclairent le peuple ignorant avec toute leur connaissance des Écritures, inconscient des propres ténèbres de leur cœur. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Il n'y a rien de pire que d'essayer d'annoncer Jésus à quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé. Mais Jésus n'est pas un guide spirituel. Si pour toi, Jésus est un guide spirituel et il n'est pas un sauveur, écoute, il va te donner des conseils. Jésus va le faire. Il est gracieux. Il est patient. Il y a des gens qui viennent à l'église 2-3 fois par année, se sont mis dans le trouble, ça ne va pas. Là, ils disent, bon, écoute, je pense qu'il faut que j'aille à l'église. J'ai besoin de 2-3 conseils, une coupe de prière. Jésus va m'aider un peu à m'en sortir. Là, ils viennent nous voir. On s'assoit ensemble. Ils sont super charmants, ils sont là, puis on veut être là pour eux. Puis là, OK, on ouvre les Écritures. Oui, OK, dans les Écritures, voici ce qu'il y a, tu sais. Tu as peut-être besoin d'un sauveur aussi. Non, je pense que j'ai surtout besoin d'un conseil. Merci, on se revoit la prochaine fois que je suis dans le trouble. Puis Jésus est patient. Tu sais, comme tu fais avec des enfants qui ne veulent pas apprendre, tu leur donnes les principes, puis après ça, tu les regardes aller, puis tu leur donnes un peu de lousse pour qu'ils se pendent. C'est ça que Jésus fait. Parce que Jésus ne peut pas te sauver si tu n'as pas besoin d'un sauveur. Il peut te donner des conseils. Je peux te donner des conseils. La Bible est super pour avoir des conseils. Il y a plein de principes de sagesse. Tu peux avoir tous les conseils que tu veux dans la Bible pour vivre une vie qui a du bon sens, tout ça. Mais tant que tu ne réaliseras pas que tu as besoin d'être sauvé, Jésus va juste être un guide spirituel pour toi, un guide de vie pour toi. Mais tu vas rester dans tes ténèbres avec tes conseils parce qu'on est incapable de sauver nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur. On a besoin qu'il soit pendu au bois. On a besoin que son sang soit versé sur la croix pour nos péchés, jusqu'à temps qu'on crie, « Christ, sauve-moi! Jésus, sauve-moi de mes péchés! J'arriverai pas, tes conseils ne sont pas suffisants. J'ai besoin que tu me portes toi-même. » Est-ce que tu es prêt à voir les ténèbres de ton cœur, de ta vie? Est-ce que tu as besoin d'un sauveur ou tu cherches juste un guide spirituel? Et Jésus est plus que ça encore. Jésus est plus que la lumière du monde. Jésus est plus que le sauveur des hommes. Jésus est Dieu le Fils. Là, Jésus va prononcer le blasphème des blasphèmes. Vous savez, un blasphème, c'est lorsque tu portes injure à Dieu, tu portes injure à la divinité. Tu sais, Jésus va dire le blasphème de tous les blasphèmes. C'est pas vrai, là? Mais c'est comme ça que ça va être compris. Encore aujourd'hui, c'est comme le plus grand blasphème. Parce que Jésus va révéler vraiment qui il est. L'évangile de Jean, des 4 évangiles, est celui où on voit le plus clairement qui est Jésus. Jésus, il dit, attendez, vous êtes choqués de voir que je pense que je vous dis que je suis plus grand que vous. Vous êtes choqués de ce que je vous dis, que je suis la lumière du monde. Vous êtes offensés de ce que je vous dis, que je suis le sauveur des hommes. Attendez de réaliser qui je suis vraiment. Et donc, eux autres commencent à le questionner sur Abraham, qui est leur ancêtre. Puis eux autres se définissaient, hein, qui sommes-nous? Nous sommes des descendants d'Abraham. Jésus dit, non, vous n'êtes pas des fils et des filles spirituelles d'Abraham. Si vous aviez été vraiment des descendants d'Abraham, vous auriez cru en moi. Mais vous me rejetez, vous n'êtes pas des fils d'Abraham, ce n'est pas vrai. Verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jésus, il fly complètement. Là. Abraham est mort depuis des années, depuis des siècles. Puis là, Jésus dit, non, mais Abraham attendait juste de voir mon jour, ma naissance, mon incarnation. Puis il l'a vu, il a trippé. C'est quoi, on voyage dans le temps, dans les dimensions, back to the future, Jésus t'est apparu dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est en train de révéler qui il est. Il est celui qui vient du ciel. C'est pour ça que l'évangile de Jean commence dans Jean 1:1 avec Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean commence son évangile en nous disant, ce livre-là va vous révéler quelque chose que personne n'a jamais compris comme ça avant. Donc, il commence avec le plus gros morceau. Il dit, je vous donne un quiz, les amis. Je vous lance sur une piste de réflexion, de recherche. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, 14, 14 versets plus loin, 13 versets plus loin, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il dit, commencez à ouvrir vos yeux, commencez à écouter, je vais vous révéler qui est ce Jésus de Nazareth. Et là, ici, Jésus se révèle à eux. Verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce n'est pas une erreur de français qu'il y a là. C'est volontaire. Parce que c'est là dans le grec. Parce que le « je suis » qui est là fait référence au « je suis » de l'Ancien Testament. Fait référence, entre autres, au « je suis » lorsque Moïse s'en va devant Dieu. Puis là, Dieu dit à Moïse, « Là, tu vas conduire mon peuple hors d'Égypte, tu vas toutes les faire sortir d'Égypte. » Puis là, Moïse dit, « Ouais, mais s'il faut que je me présente devant le peuple pour ça, c'est énorme. Il faut que je leur dise au moins dans quel nom je me présente devant eux. » Puis Dieu lui dit, « Tu leur diras, c'est « je suis » qui t'envoie. » Celui qui est. Celui qui est depuis toujours. Celui par qui tout existe. L'être incréé, éternel, permanent, « je suis ». Puis en fait, ça fait allusion à plusieurs passages dans Ésaïe aussi. Je vous lis ça, c'est vraiment intéressant. Dans Ésaïe 43, verset 10, on lit, c'est Dieu qui parle à travers son prophète à son peuple. Il dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. » Je suis. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est le même « je suis » que Jésus est en train d'utiliser. Et les Juifs comprennent très bien ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire « je suis Dieu ». Je suis celui qui vient du ciel, le Dieu incarné. Je suis Dieu. Et si tu crois et si tu reconnais que Jésus est Dieu le Fils, de quoi d'autre aurais-tu besoin sinon que de posséder le Fils? Sinon qu'être habité par l'Esprit du Fils? Sinon que d'avoir la foi en Jésus-Christ? C'est Dieu qui s'est fait homme. Est-ce que vous voyez pourquoi je dis ce blasphème-là est encore un blasphème aujourd'hui? Tu peux te présenter devant toutes les religions du monde, devant n'importe qui, les athées, n'importe qui. Tu leur dis, laisse-moi te parler de Jésus. Jésus, c'est Dieu, c'est celui qui a créé l'univers. Plus capable de t'écouter. Mais c'est lui. Une fois que je l'ai, une fois qu'il est dans ma vie, de quoi j'ai besoin? Une fois que je suis en communion avec Jésus, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me manque? Il ne manque rien. C'est pour ça qu'un peu plus loin, Jésus va dire, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Puis un peu plus loin encore, l'apôtre Paul va dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si tu as Christ, tu as tout. Tu n'es plus seul. Tu ne te maries pas pour combler un vide. Tu acceptes les choses qui viennent devant toi parce que tu es entre les mains de celui qui gouverne l'univers. Tu es reposé, tu es là, tu es dans un état de repos et tu sais que tu es en communion intérieurement avec celui qui a créé les cieux et la terre, qui s'est fait homme, qui a été pendu au bois pour tes péchés et qui t'a aimé. Et c'est de ça dont Jésus est en train de parler lorsqu'il dit « Celui qui croit en moi, celui qui demeure dans mes paroles, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein. » J'ai accepté le Seigneur quand j'avais 18 ans, vers la fin de mes 18 ans, je viens d'avoir 50 ans, et avec chaque année qui passe, je grandis dans mon appréciation de la personne de Jésus-Christ. Avec chaque année qui passe, je prends de plus en plus de joie, de bonheur à abandonner ma vie entre ses mains. À abandonner mon quotidien entre ses mains, à abandonner ma volonté entre ses mains. Que ta volonté soit faite et non la mienne devient de plus en plus délicieux avec les années. J'espère que c'est ton cas si tu es chrétien. C'est là que le Seigneur veut te conduire. C'est de ça dont l'apôtre Paul parle lorsqu'il dit « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». Cette année, ça a été une année difficile. C'est vrai? Je pense que l'année prochaine ne sera pas facile non plus. Mais on est ensemble. Mais on a Jésus sur tout ça. Et donc, par la grâce de Dieu, à travers toutes les épreuves de la vie, parce que Christ est en moi, je peux le dire par expérience. Puis, je sais que ma vie est peut-être moins difficile que la tienne. Il y a des gens ici que j'accompagne, je me dis, il y a tellement de souffrances dans leur vie, c'est complètement fou. Mais Dieu m'a fait la grâce aussi de souffrir beaucoup. Dieu m'a accordé cette grâce-là pour connaître Christ davantage. Et dans les dernières années, j'ai souffert comme ça faisait longtemps que je n'avais pas souffert. Ça remonte au divorce de mes parents quand j'avais 12 ans pour que je souffre autant que ça. Et vous savez quoi? Je peux témoigner. Des fleuves d'eau vive sont là en moi à cause de ma communion avec Christ. Je marche dans la lumière. Et donc, si ce n'est pas ton expérience de la vie chrétienne, moi, je t'invite, on va fêter Noël dans une semaine. Je t'invite à contempler Christ et son œuvre pour toi. On termine rapidement avec une dernière question dans le passage. On dit souvent que pour savoir qui on est, il faut regarder à nos origines. Par la grâce de Dieu, l'Évangile peut changer beaucoup de choses. Hein? Mes origines à moi ne définissent pas qui je suis, parce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais dans le cas de Jésus, c'est définitivement vrai. Tu regardes à ses origines pour savoir qui il est. Et à la question « Où est ton Père? », la réponse de Jésus, c'est « Il est au ciel. » Je suis un fils de Dieu, je suis Dieu le Fils et je viens du ciel. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, puis j'ai une dernière question qui est dure à entendre. Parce que lorsque Jésus dit, bien, je viens du ciel, mon Père est au ciel, c'est Dieu le Père. Ensuite, il retourne ça vraiment dans leur visage. Puis il leur dit, mais vous, vous n'avez pas pour Dieu le Père. Vous avez pour Père le diable. C'est des Juifs, les experts de la Bible. Vous avez pour Père le diable parce que quand le Sauveur du monde, le Messie, se présente à vous, vous commencez à mentir, vous commencez à le piéger, vous voulez le mettre à mort. Vous faites des manigances, vous vous servez de la loi pour manipuler les gens, vous êtes des fils et des filles du diable. C'est une des vérités les plus difficiles à accepter pour devenir chrétien, c'est d'accepter que si, dans le fond, dans ma vie, il y a plein de mensonges, il y a plein de vices, il y a plein de choses que je voudrais cacher, il y a plein de choses que je ne voudrais pas ouvrir au monde, en réalité, c'est que je porte un fruit naturel qui est celui d'un être des ténèbres. Je sais que c'est difficile à accepter parce qu'aujourd'hui, non, tout le monde est beau, tout le monde est pur, tout le monde est parfait, tout le monde est merveilleux. Hein? Ces beaux petits-enfants-là qui naissent sont sans péché, puis toi, tu es sans péché. Il y a juste peut-être des gens qui abusent. On les lit dans les journaux. Les méchants sont dans les journaux, ils ne sont pas dans mon cœur. Mais les Saintes Écritures me disent que non. Tant que je n'ai pas connu Christ, il y a des ténèbres dans mon cœur qui parlent du fait que je suis un menteur, que je suis un meurtrier en puissance, que je suis un pécheur, que j'ai pour père le diable. Et si je veux connaître Christ, si je veux vraiment que Dieu soit mon Père, pas comme on l'imagine, mais comme il se révèle à travers la parole, il faut que j'accepte qu'il y a des ténèbres dans ma vie et que Christ est là pour me conduire dans la lumière. Et ma prière pour toi, si tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est que 2020 se termine avec un moment de lucidité incroyable où tu vas accepter de voir les ténèbres dans ta vie. Tu vas arrêter de penser qu'il y a une petite lumière à l'intérieur de toi là, qui peut te guider, là, tu sais, puis tu vas aller fouiller à l'intérieur de toi pour te diriger dans la vie. Non, cette lumière-là, elle va venir en toi si tu vois les ténèbres en toi. Si tu tournes vers Christ pour qu'il te conduise dans la lumière. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient pour t'adorer ce matin. On se prépare à fêter Noël. C'est tellement, tellement, tellement cool. Même si le contexte n'est pas cool cette année, C'est vraiment génial, Seigneur, de pouvoir fêter ta naissance. Quelle belle idée les chrétiens ont eue à travers l'histoire d'instituer cette fête de Noël. J'aime ça, Seigneur, regarder ma crèche en dessous de mon sapin et me dire, je vais fêter la venue de celui qui a bouleversé ma vie, qui m'a fait sortir des ténèbres, qui m'a conduit dans la lumière, qui habite en moi, qui me donne une assurance, une espérance. Dans cette vie, mais jusque dans l'éternité, Seigneur, tu me guides dans la lumière. Quelle grâce, Seigneur, je traverse les épreuves de la vie et je trouve une joie en toi. Lorsque je me sens seul, lorsque je me pose des questions, c'est vers toi que je me tourne pour être éclairé, Seigneur. Et on va fêter Noël ensemble. Quelle grâce, Seigneur. Merci, Père, pour cette liberté qu'on a encore de pouvoir se réunir, même à travers des salles, tout ça, juste d'être ensemble pour fêter Noël. Je te prie, Seigneur, j'ose te demander de disposer les autorités cette semaine. On ne sait pas ce qu'ils vont annoncer au niveau du confinement, mais on te prie de préserver ce service essentiel, Seigneur. Qu'est l'Église, qu'on puisse se réunir dimanche prochain par ta grâce, Seigneur. Puis te chanter des louanges comme on va le faire ce matin, Seigneur. Seigneur Jésus, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Vis avec une grande liberté en nous afin qu'on marche rempli de ton Esprit Saint, Seigneur. Et si quelques personnes écoutent ce message et n'ont pas découvert qui est Jésus, vraiment, beaucoup plus qu'un guide spirituel, mais un sauveur, Dieu fait homme, viens te révéler à lui, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.